le monde il est beau, tout le monde y réagit.
Dans le précédent billet, ce qui a dit nous laisse entendre que nous sommes très nombreux à nous croire seuls. La formule est particulièrement pertinente en ces temps d'individualisme dévoyé, où l'on n'est même plus conscient de confondre l'égoïsme avec l'individuel, comme si l'un allait forcément de pair avec l'autre, et comme si, également, l'égoïsme n'était que fatalité individuelle. Il existe pourtant nombre d'égoïsmes partagés collectivement, et qui se prévalent pourtant d'une propension au partage, certes cultivée au sein du groupe, mais en son sein seulement. À cet égard, on peut déjà citer le renouveau des nationalismes décomplexés, où il s'agit de dissimuler les égoïsmes individuels en les réunissant en un tout apparemment homogène et où il s'agira de faire mine de cette volonté de partage entre membres d'une même nation au détriment de toutes les autres, ce qui sera volontiers passé sous silence. Mais il est certain qu'on pourrait trouver bien d'autres exemples dans d'autres formes de communautarisme. Dans cette même perspective, d'ailleurs, la fameuse classe moyenne, désormais unique, peut-elle aussi se prévaloir d'une forme de volonté de partage des catégories de privilèges qui lui sont réservées et dans lesquelles s'exerce un nombre considérable de concurrences passées sous silence tant qu'elles peuvent être occultées. La controverse du réputé individuel, antagoniste au réputé collectif, a donc encore vraisemblablement de beaux jours devant elle. Mais la question demeure, au-delà de cette scission, de savoir, dans les luttes historiques citées dans cet article, quel fut le déclencheur susceptible de réunir en un front commun de résistance active une somme suffisante d'individus. Ceux-ci pourtant sans doute confrontés précédemment aux mêmes problèmes de divisions internes que ceux que l'on constate actuellement. Sans doute, un seuil de tolérance a-t-il été franchi. La fameuse faculté d'adaptation, subitement, a cessé de fonctionner. Confronté en un choc frontal avec la réalité, celle-ci revenue progressivement sous les effets de réactions socio-économiques conjuguées, elle est apparue d'un seul coup en tant que ce qu'elle était depuis trop longtemps déjà, à savoir inacceptable. Faut-il alors en déduire que la réalité actuelle reste acceptable pour le plus grand nombre, ou que le plus grand nombre fait appel aux divisions internes pour justifier une absence de réaction commune ? Faut-il en déduire que l'état de soumission de cette classe moyenne actuelle, réputée homogène et nourrissant pourtant en son sein un nombre incalculable de divisions, admet qu'une réalité pourtant sans cesse récriminée par elle-même reste cependant l'horizon ultime souhaitable en termes de structure sociale ? En d'autres termes, la division partisane ne sert-elle pas finalement à légitimer l'absence de réaction ? Et l'incitation à l'ouverture d'esprit face à un nombre incalculable d'interprétations d'une même situation ne contribue-t-elle pas à installer le paradigme de tolérance là où l'on pourrait finir par ne trouver que compromission et lâcheté? Si les termes de la question ainsi posée peuvent fâcher, il n'en reste pas moins que cette absence de réaction sociale face à un système de plus en plus critiqué et de façon de plus en plus confuse reste troublante quant au motif réel de ce qui permet encore à cet ordre social d'économie de marché de perdurer. Mais peut-être ne faut-il pas oublier au passage l'impact, en termes de conditionnement de ces nouvelles machines de guerre de la pensée, installées en ligne et qui s'additionnent aux autres, qui informent tout autant qu'elles conditionnent et offrent des outils de pouvoir médiatique individuel où s'expriment indifféremment propos haineux, aspirations spirituelles, stratégies de carrière, en bref, partage, égoïsme, solidarité et j'en passe, dans un vacarme des idées où chacun cherche à se conforter bien plus peut-être qu'à s'informer. C'est de cette question d'information fournie par l'appareillage médiatique de la structure dominante dont il est question dans l'article « Occuper la fabrique des idées » écrit par Upton Sinclair, est paru dans le numéro de Manière de voir, numéro 146, faire sauter le verrou médiatique.
Upton Sinclair, 1878-1968, compte au nombre des journalistes qui, comme Jack London, envisageaient leur métier comme un sport de combat social. En 1906, son enquête « The Jungle » détaille les conditions de travail apocalyptiques dans les abattoirs de Chicago. L'ouvrage se vend à plusieurs millions d'exemplaires, obligeant le gouvernement à diligenter une enquête puis à légiférer. Dans « The Brass Check, A Study of American Journalism », le jeton de laiton, une étude sur le journalisme aux États-Unis, dont le titre fait référence à l'univers de la prostitution, Sinclair analyse l'industrie des médias, sa corruption par l'argent et la publicité, son impunité. C'est, dit-il, le plus important et le plus dangereux de mes livres. Publié en 1919, il est accueilli par le silence hostile de ses confrères, à l'exception de quelques recensions négatives, mais vendu à 150 000 exemplaires. Il n'a jamais été traduit en français. Un journal moderne, du point de vue des travailleurs, est une gigantesque usine d'armement dans laquelle la classe possédante fabrique des bombes mentales et des grenades suffocantes pour anéantir ses ennemis. Et de même que dans une guerre, la stratégie est parfois déterminée par la localisation des fabriques et des dépôts de munitions, la lutte des classes a comme épicentre la salle de rédaction. Dans toutes les grandes villes d'Europe qui ont connu la Révolution, la priorité des insurgés fut de s'emparer de ces salles et celle des réactionnaires de les en déloger. Nous vîmes des fusils mitrailleurs positionnés dans les vitrines des journaux, des tireurs qui faisaient feu depuis les toits, des soldats dans la rue qui répliquaient à coups de grenades. Il est important de souligner que partout où les révolutionnaires furent capables de prendre et de garder les sièges de journaux, ils ont préservé leur révolution. Là où les journaux furent repris par les réactionnaires, la révolution a échoué. Le même scénario va-t-il se répéter en Amérique? Verrons-nous la foule prendre d'assaut les bureaux du New York Times et de World, du Chicago Times, du Los Angeles Times? Tout dépend de l'insistance avec laquelle ces journaux capitalistes continuent d'exaspérer les travailleurs et d'étouffer la propagande de la classe ouvrière avec l'aide des serviteurs du gouvernement. Personnellement, je n'appelle pas à une révolution violente. Je veux garder l'espoir que les institutions américaines survivent. Mais je mets en garde les propriétaires et administrateurs de notre grand organe d'information capitaliste américain contre les périls auxquels les expose le caractère systématique de leur traitement mensonger du mouvement révolutionnaire. Il ne s'agit pas seulement de la colère qu'ils provoquent dans les cœurs des travailleurs et des travailleuses conscients de leur appartenance de classe. Il s'agit surtout de la condition instable imposée à la société par la masse de vérités qu'ils réduisent à néant. Aujourd'hui, chaque travailleur conscient de sa classe est tenté par la pensée maîtresse que si lui et ses camarades pouvaient s'approprier les moyens d'information, se saisir des imprimeries et en rester maître une dizaine de jours, il serait en mesure de mettre un terme définitif au pouvoir du capitalisme et d'instaurer un espace de paix et de coopération aux États-Unis. Quand je parle d'une dizaine de jours, je ne le fais pas avec légèreté. Imaginez seulement que la presse américaine dise la vérité pendant 10 jours. Une loi prévoyant qu'à chaque fois qu'un journal publie de fausses informations à propos d'un individu et attire l'attention de ce dernier sur la fausseté des dites informations, il devrait être tenu de faire paraître un correctif dans son édition suivante, au même emplacement et dans les mêmes conditions de visibilité que l'article initial. Il devrait aussi y avoir une loi interdisant aux journaux de falsifier une dépêche télégraphique ou câblée. Cette pratique constitue pour l'instant une coutume universelle dans les salles de rédaction. De telles lois seraient utiles. Je pourrais en suggérer d'autres qui nous aideraient pareillement. Toutefois, ce n'est pas l'objet de ce livre que de réclamer de nouvelles lois. Avant de couper les griffes du tigre, il faut d'abord se soucier d'attraper la bête. Voir des journaux passer aux mains des municipalités fait partie de la solution. Mais cela ne suffit pas. En tant que socialiste, je défends la propriété publique de l'outil et des moyens de production. Mais je ne me fie pas intégralement à ce principe lorsqu'il s'agit de production intellectuelle. Je voudrais que l'État produise l'acier, le charbon et le pétrole, les chaussures, les allumettes et le sucre. Je voudrais qu'ils prennent en charge la distribution des journaux et peut-être même leur impression. Mais en ce qui concerne leur publication, j'opterai pour une méthode de contrôle qui permette le libre jeu de l'initiative et de l'expression de la personnalité. Je propose que l'on fonde et finance une publication hebdomadaire fidèle à la vérité qui porterait le nom de National News. Ce journal ne contiendra ni publicité ni éditoriaux. Ce ne sera pas un journal d'opinion, mais un pur et simple compte-rendu de faits. Il paraîtra sur du papier journal ordinaire et sous la forme la moins coûteuse possible. Il n'aura qu'un but et un but seulement, celui de délivrer une fois par semaine au peuple américain la vérité des faits qui se déroulent dans le monde. Il sera strictement et absolument non-partisan. Jamais il ne servira d'organe de propagande à quelque cause que ce soit. Il observera le pays et rendra compte des mensonges qui circulent et des vérités qu'on l'en camoufle. Sa tâche consistera à percer à jour les mensonges et à mettre en lumière la vérité. Notre rédacteur en chef accordera peu de place aux nouvelles traitées par tous les autres journaux. Pour lui, l'information capitale sera celle que les autres taisent ou négligent. Il fera appel à des enquêteurs chevronnés qui travailleront la semaine entière, voire pendant des mois, à récolter des faits sur le lobby du bœuf à Washington, le contrôle de nos écoles publiques par les intérêts militaires ou la question de savoir qui payera pour l'expédition américaine en Sibérie. Autant dire que la presse capitaliste ne se fera pas prier pour laisser au National News l'exclusivité complète sur ces sujets. Elle ne manquera pas non plus de lui fournir profusion de mensonges à dénoncer.
Ainsi se termine ce billet. À la semaine prochaine pour la suite de l'émission. L'équipe rédactionnelle vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine.